Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Laurie dans un podcast un petit peu particulier. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va surtout parler de notre livre qui sort bientôt, Orthophoniste, le guide pour bien démarrer. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices ?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Laurie Rohan, de mon nom de jeune fille Nadalin. Je suis orthophoniste depuis 2016 et youtubeuse et maintenant autrice grâce à ce super projet. On avait enregistré un podcast il y a quelques années sur la prévention en orthophonie.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet. Et je suis accompagnée de ma fille Soline, donc vous risquez d'entendre quelques petits bruits de nourrisson.
Voilà, donc Laurie et Soline vont répondre à nos questions aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une occasion toute particulière. C'est que notre livre « Orthophoniste, le guide pour bien démarrer » va sortir dans quelques semaines. Donc, quand l'épisode sortira, ça sera quelques jours. Et on avait envie de faire cet épisode ensemble pour justement en parler un petit peu plus et répondre aussi aux questions qu'on nous a posées sur le livre.
C'est ça.
Donc, ça va être un format un petit peu différent de d'habitude parce que les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur ton parcours, je les invite à aller voir l'épisode qu'on avait fait sur la prévention. Là, on va se concentrer sur le livre aujourd'hui pour expliquer un petit peu plus ce que c'est et puis dévoiler un petit peu les coulisses.
Très bien.
Donc, j'ai découpé cette foire aux questions avec différentes catégories en fonction des réponses qu'on avait eues. Donc la première catégorie, c'était sur la disponibilité du livre et on nous avait demandé est-ce que le livre est utile si on s'installe en Belgique. Quel est ton avis là-dessus? Et Soline, peut-être ton avis.
Tout à fait. Alors, à part démarche on va dire administrative à faire pour l'installation libérale. Sinon, on vous explique comment faire une candidature. Donc ça, il me semble que c'est assez similaire dans tous les pays francophones. On vous donne des conseils sur la prise en soins. On vous parle du type de prise en charge qu'on a, des difficultés qu'on a pu traverser, des conseils qu'on vous donne pour trouver un équilibre dans votre pratique. Donc ça, il me semble que ça peut parler à tous les orthophonistes, en tout cas francophones. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Oui, tout à fait. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de l'orthophonie en général et sur le début en orthophonie. Après, c'est vrai que oui, la partie installation libérale, c'est vraiment propre à la France. On n'a pas du tout écrit ça pour la Belgique, la Suisse, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe ailleurs. Et après, effectivement, sur le type d'institution, du coup, ce n'est pas les mêmes intitulés, etc. Mais toi, la partie que tu as fait sur le salariat, ça ressemble dans les grandes lignes au salariat en général. Donc après, sur vraiment les spécificités françaises, on ne trouvera pas les mêmes choses en Belgique, mais en global, par contre, c'est quelque chose qui est intéressant qu'on s'installe en Belgique, en Suisse ou ailleurs.
Tout à fait.
On avait une autre question, c'est où est-ce que sera disponible le livre ?
Mais partout, dans toutes les bonnes librairies. Non, en format papier, dans les librairies principales. On ne sera pas exhaustif parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais de Citre, Chapitre, Cultura, la Fnac, Amazon, etc. Ils sont d'ailleurs déjà disponibles en précommande depuis un petit moment.
Oui.
On espère que les BU, les bibliothèques universitaires, joueront le jeu aussi pour l'acquérir pour les étudiants éventuellement qui veulent le consulter. Et en format numérique, il est disponible également sur Amazon, Chapitre, de Citre, Apple. La FNAC, les libraires, Place des libraires, le Furet du Nord, enfin vraiment plein de plateformes existantes.
Ouais, ça c'est super, on pourra le trouver partout et assez facilement. Concernant le prix, il y avait une question sur le prix aussi. Bon, le prix, il faut savoir que c'est pas nous qui le fixons.
Non. Eh ben, je m'en rappelle plus.
26,90.
Voilà.
On l'avait découvert sur la couverture, donc du coup,
Oui, c'est
voilà.
ça. On n'était même
80.
pas. Ouais.
Donc ça, c'était sur vraiment le chapitre disponibilité du livre. On va passer après au contenu à proprement parler du livre. On avait une question qui était, est-ce que l'exercice mixte et ses particularités administratives sont abordées?
Tout à fait. On a voulu aborder vraiment tous les modes d'exercice, libéral exclusif, salarié exclusif et mixte, en donnant selon nous les points positifs de ces pratiques et les choses auxquelles il faut veiller. Donc on y parle d'administratif puisque de toute façon ça recoupe les deux. Donc quelqu'un qui veut travailler en mixte aura besoin d'un peu plus de lecture, du coup, aura besoin de lire un peu tous les chapitres. Mais en effet, on n'a pas laissé de côté cette pratique.
Oui, complètement. Et puis, enfin, c'est vrai qu'on a vu cette expérience de mixte aussi, où on sait que c'est important de s'attacher à tout ce qui est libéral, de s'attacher à tout ce qui est salariat. Et comme tu disais, bah, il faudra faire une double lecture parce qu'il y a besoin de faire les deux.
C'est
Il n'y a
ça.
pas de statut particulier où il y a un regroupement. En fait, tu es obligé d'avoir le statut libéral et le statut salarié.
Ouais, on ne peut pas faire l'impasse sur les impondérables du libéral, même si on n'en fait que 20% dans sa semaine.
Oui,
Tout à fait.
exactement. Donc ça, ce sera peut-être plus une question pour moi. Y a-t-il des informations sur les normes obligations concernant la création d'un cabinet? Alors, on a des informations sur comment ça se passe pour débuter en libéral. Après, tout ce qui est normes, obligations, c'est vraiment rentré dans le détail. Donc là, ce n'est pas abordé dans ce livre, qui est plus un livre pour vraiment se familiariser avec qu'est-ce que c'est de commencer à travailler en orthophonie. C'est des choses, ça, qu'on retrouve plutôt dans les 100 infos ortho, qui est plus technique. Ça, on ne l'a pas mis volontairement aussi dans le livre pour pas que ça soit trop lourd, parce qu'il y a déjà 192 pages. Donc, je pense que sinon, on en aurait fait 450 à peu près.
Oui, il y a toujours plus de choses à dire, c'est sûr.
J'avais envie aussi qu'on puisse partager un quiz avec les auditeurs et auditrices. Donc, si ça te va, Laurie, c'est moi qui vais lire les questions du
Ah,
quiz
génial.
ortho, libéral, salarié ou mixte. Et comme ça, toi, tu pourras répondre, enfin, dire tes réponses. Et à la fin, on lira un petit peu toutes les réponses pour voir ce qu'obtiennent les auditeurs et auditrices.
Ok, trop chouette.
Alors, c'est parti. Donc, ortho, salarié ou libéral? Si vous deviez résumer votre attrait pour l'orthophonie à un domaine, ce serait donc la réponse carrée. Les troubles des apprentissages, votre cœur balance entre la cognition mathématique, la lecture et l'orthographe.
Sûrement pas.
Triangle, la neurologie adulte, vous êtes incollable sur les aires du langage. Et enfin, rond, impossible, vous aimez l'idée de rencontrer un enfant qui bégaye le matin et une dame âgée avec des troubles de la déglutition l'après-midi. Toi, tu répondrais quoi, Laurie?
Ah, je suis partagée, j'hésite entre la 2 et la 3, mais la neuro, c'est quand même mon dada.
Donc pour toi, ce sera triangle.
Ouais.
Ensuite, comment imaginez-vous votre bureau? Votre bureau, qui a dit que vous ne deviez en avoir qu'un? Vous aimez changer d'environnement plusieurs fois dans la semaine? Ça, c'est la réponse rond. Ensuite, la réponse carrée, avec un placard rempli de jeux, de photos, de voyages au mur et des poufs colorés un peu partout. Et la réponse triangle, vous êtes minimaliste, ça ne vous dérange pas de partager avec un collègue, d'avoir peu de décoration et juste ce qu'il faut de matériel. C'est quoi pour toi?
Bah, si je suis honnête, j'aime bien l'idée d'un cocon quand même, d'avoir un deuxième chez soi. Après, l'idée de changer de bureau plusieurs fois dans la semaine, ça ne me dérange pas. Mais le petit cocon, c'est quand même.
C'est quand même agréable.
Ouais.
Donc pour toi, c'est carré. Votre rapport aux vacances, réponse triangle. Vous n'avez pas besoin de partir un mois entier pour décrocher complètement. 2 semaines l'été vous suffisent et 1 ou 2 semaines par-ci par-là dans l'année. Réponse carrée. Vous en prenez de manière plutôt irrégulière. Vous êtes capable de passer près d'une année sans vous arrêter, mais appréciez de pouvoir faire une pause de plusieurs mois si l'envie vous vient. Et la réponse rond. Vous êtes plutôt flexible sur la question. Ce n'est pas plus mal qu'on vous en impose parfois, car vous seriez du genre à oublier de faire des pauses.
Moi, j'aime bien partir plusieurs fois dans l'année. Donc, la première m'allait
Ouais.
bien. Ouais,
Donc toi, c'est triangle.
faire des coupures régulières.
Ouais, ça, c'est agréable pour toi. Ensuite, le point fort de l'orthophonie selon vous. Rond, l'absence de routine. Vous aimez l'idée de pouvoir travailler où que vous le souhaitiez et varier les domaines et types de patients. Ensuite, triangle. Vous aimez pouvoir vous spécialiser dans un domaine et allier votre expertise à d'autres corps de métier. Ou alors, carré, la possibilité d'être son propre chef. Chef, c'est vous qui décidez de tout.
Bah, la diversité, le fait qu'il n'y ait pas de routine, c'est vraiment quelque chose que je
Ouais.
recherche. Ouais.
Donc pour toi, ça c'est rond. Moi, c'est carré à 100%.
Carré, c'est.
C'est être son propre chef. Ensuite, votre avis sur le travail en équipe. C'est ce qu'il y a de plus beau comme aimer. Ça, c'est la réponse triangle. La réponse rond, sympa de temps en temps, mais vous aimez aussi être seul parfois. Et la réponse carrée, boire un thé de temps à autre pour critiquer la grand-mère de son patient avec sa collègue copine, ça compte?
Moi, j'adore le travail en équipe. C'est vraiment ce que je recherche.
Donc pour toi, c'est ce qu'il y a de plus beau comme aimer.
Ouais, exactement, exactement.
Ensuite, votre rapport au téléphone. C'est une phobie. Vous laissez des post-it sur les bureaux de tous vos collègues plutôt que de les appeler et de risquer de les déranger. Ça, c'est la réponse triangle. Ou alors la réponse rond. Vous êtes le client le plus fidèle de votre messagerie. Jamais dispo sur le moment, mais toujours au rendez-vous pour rappeler sur la route. Ou la réponse carrée. Cela ne représente absolument pas une contrainte. Les mutuelles sont à votre botte à force de les avoir au bout du fil.
Ah, c'est clairement une phobie, je réponds pas et je ne rappelle pas. C'est horrible.
Je suis comme toi, moi, les mails, je trouve ça génial.
Ah oui, par contre les mails, il n'y a pas de problème, hein, mais oh, les téléphones, quelle horreur. Et tu arrives à passer au-delà, en libéral?
En général, eh ben, moi je t'avoue qu'en fait il y a tellement d'appels que du coup, moi sur ma
Tu
messagerie,
réfléchis.
les gens doivent s'inscrire sur liste d'attente parce que sinon ça sonne toute la journée.
Mmh.
Là, j'ai passé l'étape d'après, je le passe en silencieux. Avant, j'avais mis une sonnerie spéciale, là je le mets en silencieux parce que c'est
C'est
pas
trop.
gérable. Ouais. Ensuite, quand vous pensez à votre salaire, vous imaginez, carré, mettre fin à la disette qui vous a accompagné durant tout votre cursus universitaire. Un salaire à 6 chiffres, c'est trop demandé? Ou alors rond, une base fixe pour la sécurité et un complément plus ou moins important selon les mois où vous sentez une importante motivation à travailler. Triangle, vous n'avez pas vraiment réfléchi à la question, mais quand vous étiez étudiant, ça n'a jamais été une angoisse de terminer les fins de mois dans le rouge.
Moi, je suis calamité en chiffres. Bah, t'as vu, je savais même pas le prix du livre. Donc, moi, un truc fixe tous les mois. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à la question, sinon j'aurais peut-être fait neuropsychologue. Donc, le dernier, clairement, j'ai pas réfléchi à la
Pourquoi?
question. Et là, tu vois, d'être en congé mat, je perds des sous, mais j'ai même pas envie de compter combien parce que
Ouais.
c'est, voilà.
Le déni, c'est bien.
Le déni, c'est ça. Tant que j'arrive à manger mes petits sushis une fois par mois, c'est bon.
Après t'être privé pendant 9 mois.
Ouais, c'est ça.
Question suivante. Combien de temps pensez-vous allouer à votre travail? Réponse triangle. Soyons clairs, le minimum. Vous voulez rentrer tôt pour profiter de longues soirées de loisirs? Réponse rond. Ça dépendra des jours. Ça ne vous fait pas peur d'alterner entre de grosses journées interminables et des moments plus calmes au cours de votre semaine? Ou alors réponse carrée. Cela variera certainement au cours de l'année, mais des semaines de 40 heures ne vous impressionnent pas a priori.
Le minimum.
Je
Clairement.
comprends.
Le travail pour moi, c'est un
C'est un
moyen pour
travail.
vivre. Ouais.
Ouais.
Donc,
Dernière question. Comment imaginez-vous la place des parents dans le suivi de vos petits patients? Triangle. Oh, moins vous les verrez, mieux vous vous porterez. Carré, central. Vous ne pensez pas une seule seconde pouvoir avancer sans eux. Ou rond. Cela vous enchante d'en rencontrer une partie, mais vous appréciez tout autant échanger de temps en temps avec les éducateurs ou les soignants de vos patients.
la troisième.
Ok.
Je trouve que c'est très important. Peut-être pas à chaque séance non plus. Donc
Oui.
voilà, une fois de temps en temps et surtout avec les autres partenaires, je trouve ça chouette.
Donc c'est rond. On a oublié de compter combien tu avais de ronds, de triangles et de carrés.
Ah mince! Ah bah oui, c'était. Ouais, j'y ai pas pensé.
On recomptera et
Ok,
on fera des comptes sur Instagram.
ça marche.
Donc c'est parti pour les réponses. Donc si vous avez eu un maximum de carrés, vous avez une âme de patron. Travailler plus pour gagner plus est une phrase qui vous parle et à laquelle vous ajouteriez quand même, surtout si c'est pour pouvoir se payer des vacances all inclusive à Acapulco. Vous aimez être libre dans vos choix, vous voulez pouvoir décider de votre environnement de travail, de votre matériel et même aussi un peu de vos patients. Réponse triangle. Votre adage serait plutôt la pression, il vaut mieux la boire que la subir. Répondre à une hiérarchie ne vous fait pas peur tant que vous disposez de votre temps libre. De toute façon, une fois que vous passez la porte de votre maison, vous ne pensez plus au boulot et c'est très bien comme ça. Le salariat est fait pour vous. La réponse rond, votre cœur balance entre le salariat et le libéral. Vous aimez tout décider, mais ça ne vous dérange pas de rendre des comptes à vos supérieurs de temps à autre. Ce que vous aimez surtout, c'est ne pas avoir à choisir entre la liberté et la sécurité, et vous appréciez également de pouvoir varier les plaisirs. Voilà pour ce premier quiz.
Suspense.
J'adore les relire à chaque fois parce que tu vois, il y a des moments que j'oublie, je me dis, ah ouais, c'était pas mal celui-là.
Ouais, je suis d'accord.
On va passer à la deuxième partie, la troisième partie de la foire aux questions, donc sur les témoignages, et on nous demande qui témoigne dans le livre. Donc, soit tu en avais déjà un peu parlé dans la vidéo où tu as annoncé le livre,
Oui.
mais on va pouvoir dévoiler toutes les personnes qui ont témoigné et participé dans ce livre, et un grand merci à elles.
Tu veux qu'on en
Est-ce que
dise?
tu veux commencer?
Ouais, on en dit une chacun?
Allez,
Un
parfait.
chacune? Témoigne Barbara Baker de Aura Voice Formation sur du coup ses prises en soin de la voix.
Ouais.
Donc elle parle de spécificité de la prise en soin de la voix, ce qu'elle en pense, et elle nous dévoile une petite anecdote.
Tout à fait. Ensuite, nous avons Delphine Lavoie, donc orthonénette, que vous connaissez sûrement sur les réseaux, qui a accepté de participer aussi et qui nous parle du langage oral, parce que Delphine, c'est dada, c'est langage oral neuro. Et là, elle vient nous parler du langage oral et j'étais super contente de pouvoir avoir son témoignage qui est très intéressant.
On a Marie Poirette de Feu Parents Équipés, si j'ai
Oui,
bien compris,
c'est ça.
et qui nous parle du coup de la prise en soin de l'oralité,
Tout à fait.
qui d'ailleurs était dans ma promotion. On était dans la même promo avec Marie Poirette. Ouais.
Mais je savais pas.
Ouais.
Exclusivité.
Exclusivité, on était dans la même promo et en plus, elle avait fait un stage ou un semestre en Suède. Et donc, on avait pas mal discuté parce que j'avais envie de partir en Suède après le diplôme. Donc,
OK.
voilà, petite
Ah,
info.
trop chouette. Je savais pas du tout. Trop bien. On a ensuite Sophie Gonneau. Donc, que vous connaissez aussi sûrement, Sophie Orthophonie sur Instagram, qui a créé la marionnette Lipo, qui fait des formations en articulation. Et donc, elle vient nous parler d'articulation dans son témoignage. Et c'était vraiment chouette de pouvoir avoir le témoignage d'une personne aussi bien formée et informée sur le domaine de l'articulation.
On a Vincent Widmer et Camille Martial de Le Cérébro Web sur Instagram qui nous parlent de la neurologie. Un sacré binôme.
Ça, c'est clair, qui ne ménagent pas leurs efforts.
Non, c'est sûr.
On a ensuite Héloïse de Mélidémo aussi sur Instagram, donc qui vient nous parler des troubles des apprentissages. Son compte est aussi grand public, et là, elle vient nous parler son témoignage en tant qu'orthophoniste. Donc, un grand merci, Héloïse.
On a ensuite Rafaela Pina Sanchez, qui est orthophoniste près de Lyon, qui était aussi dans ma promotion, alors qui n'est pas active sur les réseaux, mais qui nous parle de sa prise en soin du handicap, parce qu'elle a travaillé beaucoup dans le champ du handicap. Maintenant, elle est en libéral, mais elle travaille aussi beaucoup avec des enfants qui présentent des handicaps variés.
Nous avons ensuite Rachel Dutordoir de la tribu Happy Kid, donc qui elle aussi a publié chez Deux Books Supérieurs et a accepté de venir nous parler de la particularité des prises en charge oro-myo-fonctionnelles. Donc c'est vraiment son dada Rachel et c'était super qu'elle puisse venir nous en parler avec son expérience de maman qui a connu ça avec son enfant aussi.
On a aussi Coralie Prudhomme qui a accepté de témoigner de la prise en soin de la cognition mathématique que j'ai connue moi par l'association LAPOR, l'association pour la prévention en orthophonie du Rhône.
Nous avons ensuite Sarah Hervé, donc une autre Sarah, qui vient nous parler du bégaiement, parce que là aussi, Sarah, c'est la référence, en tout cas dans ce qu'on peut voir en ce moment sur le bégaiement. J'étais vraiment très, très contente qu'elle puisse venir nous en parler, amener son témoignage et ses petites anecdotes.
On a Lorraine Mansot-Lacuisse de Éveillons l'audition qui nous parle de la surdité.
Tout à fait. Donc voilà, on était super heureuse de pouvoir partager ces témoignages parce que nous, on a nos spécificités dans notre exercice, mais là, c'était bien d'avoir quelque chose de très exhaustif avec toutes les particularités, parce qu'il y a des choses que l'une comme l'autre, on ne fait pas du tout. Et c'était très bien de pouvoir s'entourer de personnes qui sont spécialistes pour vraiment vous donner un panel de tout ce qui est possible de faire en orthophonie et un peu mieux se rendre compte des avantages, des inconvénients, des petites anecdotes rigolotes, parce que vous aurez compris que le ton du livre, c'est vraiment feel good, léger, et pouvoir le lire et s'informer et passer un bon moment en même temps.
Oui, puis c'était, je pense, important. Enfin, je ne sais pas si ça l'est pour toi, mais pour moi, je crois que c'est important de dédramatiser un peu l'aspect spécialisation de l'orthophoniste, parce que c'est un gros mot dans notre profession, alors que c'est très bien de se spécialiser, c'est très bien de prendre un public tout venant et de prendre tout le monde, mais c'est aussi bien d'admettre parfois qu'on a nos limites et qu'on est meilleur en surdité, qu'on est plus à l'aise en neurologie, etc.
Oui, complètement. D'ailleurs, on a un chapitre dans le livre où on parle de repérer ses limites et quelles sont ses propres limites à soi et qu'est-ce qu'on en fait. Et tu as amené un témoignage, je trouve, qui est vraiment hyper touchant dans ce chapitre. Donc, je vous invite à le lire. C'est surprenant parce que je ne connaissais pas non plus cette partie de toi. Et donc, c'était très touchant que tu nous le partages dans le livre.
Bah pour l'anecdote, ma maman a relu le livre pour les coquilles, pour les fautes d'orthographe, et elle ne savait pas que je parlais de ça dans le livre, et elle m'a dit qu'en effet, elle avait été aussi assez touchée par ce passage. Ouais. Donc, oui, on y a mis nos tripes. Hein.
Oui, clairement. on va passer à l'autre partie sur l'écriture d'un livre. Donc, comment ça se passe pour écrire avec deux books supérieurs? Je pense que là, tu peux commencer.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe normalement, mais là, moi, je n'ai pas eu grand-chose à faire au départ. En fait, c'est un éditeur, Amaury Derand, s'il passe par là, qui est venu me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce qu'il avait repéré ma chaîne YouTube. Donc, moi, je pensais que c'était une énorme blague au départ. Hein. J'ai envoyé des captures d'écran à une copine.
C'est vrai, oui, tu croyais pas.
Ah, j'y croyais pas parce que je sais pas. Parce que deux books supérieurs, pour moi, c'était l'éditeur de tous nos livres d'ortho à la fac. Et le fait qu'il apprécie ma chaîne YouTube, qui était plutôt de la vulgarisation, je trouvais ça étonnant. Et qu'il passe par Instagram, je trouvais ça d'autant plus étonnant. Donc, je suis allée fouiller sur LinkedIn pour voir si c'était un vrai profil.
C'était vraiment.
Voilà, parce qu'en plus, il avait très peu d'abonnés sur Instagram. Et en fait, c'était la même photo, le même nom. Je me suis dit, ça ne me donne pas plus d'informations. Je ne sais pas si c'est un faux truc. Donc, je lui ai proposé de me contacter par mail pour voir s'il avait un mail professionnel. Ce n'était pas yahoo.fr, quoi. Et là, j'ai vu que c'était édition de Book Supérieur. Donc, ça a validé le fait que c'était bien ça. Et donc, on a échangé. En fait, il m'avait contacté en me disant, est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un livre? Sachant que oui, enfin moi c'est quelque chose, c'est un rêve un peu secret depuis toujours, mais je me sentais pas du tout légitime, puis je savais pas du tout quelle était la marche à suivre pour le faire. Mais là, c'était vraiment, on déroulait un peu le tapis rouge, quoi. Donc l'idée qu'il avait en tête, c'était du coup de parler de l'installation d'un orthophoniste, les informations à connaître avant de commencer à travailler. Et du coup, j'ai tout de suite pensé à toi, parce que moi, je me sentais légitime de parler du salariat, mais du libéral beaucoup moins. Je pensais que ça allait représenter vraiment un travail énorme. Et en sachant tout ce que tu avais déjà abattu comme travail pour les sans-info ortho, je me suis dit, c'est dommage de ne pas profiter de ça, de ne pas profiter de toutes tes connaissances et de ne pas avoir quelqu'un qui est vraiment dans le domaine et qui peut en parler mieux. Et puis je crois que ça me rassurait d'être à deux aussi pour parler de l'orthophonie, parce que j'ai toujours, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais un peu le syndrome de l'imposteur, quoi, qui je suis pour parler de l'orthophonie alors que je me sens pas spécialisée, je me sens pas, enfin le salariat c'est pas non plus toujours très valorisant aux yeux des orthophonistes, donc voilà, c'est quelque chose que je partage toujours sur ma chaîne, mais là, le fait d'écrire un livre, ça paraissait vraiment très sérieux et j'avais besoin d'être rassurée par la présence d'un pair.
Oui.
Et donc, comment ça s'est passé ensuite? Ben, on s'est mis en contact avec lui et puis le travail a commencé. On a écrit pendant près d'un an. On était très autonomes. Hein. En fait, on pouvait faire appel à eux quand on le voulait, mais on était plutôt très autonome dans l'écriture. On a dû envoyer nos premières épreuves, je sais pas, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois.
Ouais, ça s'est passé assez vite sur la fin, ouais.
Ça s'est passé très vite, et puis voilà, je pense qu'on s'est bien motivés, et ça a été facile toutes les deux, parce qu'on écrivait chacune à notre rythme, mais on avait des petites fulgurances parfois, où on écrivait beaucoup d'un coup, donc ça nous a motivés. Parce que je pense que quand on part dans un projet et qu'on nous dit c'est pour dans un an, ça peut être compliqué de se mettre au travail. Ouais,
carrément. Et ça, t'en avais parlé dès le départ, mais ce qui était super, en fait, c'est que y avait des périodes où l'une ou l'autre, on était plus ou moins active. Et du coup, quand tu vois que l'autre a beaucoup écrit, tu te dis « Allez, ça remotive !» Et donc, du coup, ça nous relançait. Et ce qui était chouette aussi, c'est qu'on avait un double regard sur tous les chapitres. Enfin, le chapitre du salariat, moi, honnêtement, j'aurais jamais écrit ce chapitre parce que j'ai eu une très, très courte expérience en salariat. J'étais remplaçante en plus, donc je me sentais pas du tout armée pour le faire. Mais par contre, j'ai pu relire ton chapitre, suggérer des choses, et toi, inversement, sur le libéral, où moi, je me sentais beaucoup plus en confiance sur le libéral. Mais par contre, toi, tu as pu amener des retours qui étaient super intéressants. Et de quelqu'un d'extérieur aussi, parce que mine de rien, moi, c'est mon quotidien, le libéral, donc des fois, il y a des choses qui me semblent hyper logiques, mais si c'est pas ton quotidien, ça l'est pas. Et donc, du coup, c'était génial de pouvoir avoir ce double regard à chaque fois, et de vraiment construire tout le livre ensemble, avec nos connaissances à chacune et nos particularités chacune aussi.
Oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour avoir le retour de certains relecteurs, apparemment, ça se sent quand c'est l'une qui écrit et l'autre, le changement de narrateur, enfin,
Ouais, c'est trop drôle.
d'autrice, ça se ressent, oui.
Là, quand je l'ai fait relire aussi, j'ai une copine qui m'a dit, alors je pense que là, c'est toi qui as écrit. Là, je pense que c'est Laurie, là, ici. Et il y avait des choses où elle était un peu entre les deux, elle savait pas.
Oui,
Mais
bah
c'est
parce qu'on s'est relus beaucoup les unes
ouais,
les
c'est
autres.
ça. Mais c'est vrai que toutes les deux, on s'exprime déjà à l'oral de façon très différente, je pense. À l'écrit, forcément. Et puis après, en fonction de nos expériences, on raconte pas les mêmes choses aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant d'avoir le point de vue de deux personnes qui sont très différentes sur leur manière d'appréhender le travail dans le sens salariat libéral. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de plus exhaustif que si une seule d'entre nous l'avait fait, je pense.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Et alors, moi, je voulais te poser la question, comment c'est d'écrire un livre quand on est maman et enceinte?
Alors, enceinte, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on est quand même un peu ralenti et on perd quelques neurones hein, quand on est enceinte. Donc, voilà, c'est plutôt le congé mat qui était confortable pour du coup cette dernière période de relecture, etc. Et maman, bah, comment on fait? On écrit quand il y a des siestes, s'il y en a. Non, c'est plutôt bien parce que ça pousse à. Je trouve que quand on a deux jeunes enfants, comment dire, on peut très vite se mettre dans sa bulle et finalement plus trop avoir de stimulation cognitive
Oui.
en dehors du travail. Et donc là, de se remettre dedans et d'avoir un challenge en dehors, c'est très motivant. Et puis pour l'estime de soi, de se dire, bah, c'est pas parce que je suis maman que j'arrête mes projets, quoi. Je continue les choses à côté. Ça, c'est très, très encourageant et valorisant.
Ouais, j'imagine.
Et
Et
toi, de décrire alors que tu avais d'autres projets, plein de gros projets à côté?
ben, très stimulant, très fatigant.
Ouais.
En fait, c'est vrai que moi, tous les projets que j'avais faits avant, c'était des projets où j'étais seule et où il n'y avait pas de date butoir. Donc, c'est-à-dire que, enfin, tu vois, j'avais dans l'idée à peu près quand je voulais que ça sorte, mais j'étais pas à la semaine près.
Tu parles du
Donc,
podcast et des sans info à toi?
ouais, sans info ortho, la formation, au final, tu vois, c'était moi qui décidais quand ça sortait. Et puis si je voyais que c'était, si j'étais un peu en retard, eh ben, je me disais, je vais pas faire des nuits blanches et je vais me laisser un petit peu plus de temps. Et là, du coup, le fait qu'il y ait une deadline, en fait, moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus changé. Et parce que c'est vrai que. Et le fait aussi qu'il y ait d'autres intervenants. Parce que souvent, bah, toi, c'est ce que tu t'écrivais plutôt au fur et à mesure. Alors que moi, je préfère avoir des grosses sessions où j'y passe
Ah,
plusieurs
c'est
heures et je fais une
drôle.
pause. Ouais, sur ça aussi, ouais, c'était marrant. Moi, tu vois, de s'y mettre un tout petit peu par-ci par-là, j'arrive pas parce que j'arrive pas à rentrer dedans.
Ouais, je comprends. Bah ouais, moi j'ai toujours fonctionné comme ça pour le
Ouais.
mémoire, pour les comptes rendus. C'est 5 minutes par-ci par-là. Sinon, de me dire je me bloque 2 heures là pour faire ça, oh, c'est le meilleur moyen pour que je vais tendre une lessive, que
Ouais.
Ah ouais, c'est horrible.
Alors que, ouais, tu vois, moi, de m'y mettre un peu, ben, j'arrive pas à me remettre dedans et du coup, j'avance pas. Alors que d'avoir des grosses plages horaires, enfin, tu vois, je me disais, par exemple, cette journée, je fais ça ben, de 10h à 16h
Incroyable.
et c'est du non-stop et moi, je préfère faire comme ça, même pour les comptes rendus, etc. C'est vrai que,
T'es une
voilà, je suis un peu.
bachoteuse, du coup,
Ouais, c'est
j'imagine. Ouais.
exactement.
Ouais.
Et donc, du coup, ouais, ce qui changeait, c'est que bah, quand j'avais fait le e-book, je me faisais des journées comme ça. Donc, je me faisais des journées. Alors là, pour le e-book, c'était pendant le confinement. Donc, c'était encore pire. Je faisais 8h, 20h. Et vraiment, j'avais juste la pause pour manger et le goûter. Et le temps passait hyper vite,
Waouh.
quoi. Et tu vois, j'aurais pas réussi à faire un petit peu tous les jours. Ça aurait été trop compliqué. Et du coup, là, ce qui n'était pas évident, c'est que bah, comme moi, j'aime bien beaucoup travailler d'un coup pour me dire après, OK, je souffle. Là, ce qui était plus difficile, c'est que bah, comme on devait attendre des retours et s'y replonger, moi, c'est ça qui m'a changé en termes de rythme. C'est que bah, des fois, il fallait s'y replonger un petit peu. Ou alors, moi, je faisais ma grosse session et puis après, il fallait attendre et y revenir plus tard. Et du coup, ce n'est pas moi qui choisissais quand j'y revenais aussi. C'était en fonction des retours. Donc, moi, c'est là où j'étais en difficulté. Je n'ai pas d'enfant, donc sur ça, je n'ai pas été en difficulté. Mais moi, c'est ça qui était difficile pour moi. Mais après, sinon, enfin, le fait d'écrire, enfin, déjà, moi, j'adore ça. Ce n'était pas ma première expérience, mais ma première expérience dans une maison d'édition. Et enfin, c'est super chouette de pouvoir se dire que là, on pourra le trouver concrètement, le livre, le toucher, le voir dans les rayons. Enfin,
Ouais, c'est
c'est génial.
incroyable.
Ouais.
Clairement, je suis d'accord avec toi. Et puis l'exercice d'écrire à deux, moi, je l'ai trouvé très confortable. J'avais eu une mauvaise expérience avec le mémoire parce que on peut ne pas être sur les mêmes rythmes et justement voir l'autre qui n'avance pas, ça peut stresser alors que l'autre a une manière de travailler complètement différente. Là, on s'était quand même bien réparti le format, enfin les chapitres, etc. Et puis je crois que ça nous tenait autant à cœur l'une et l'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti du coup.
Oui.
Il y avait un certain lâcher-prise, une certaine confiance en l'autre de se dire, bon, bah, peut-être que ce n'est pas son rythme, mais ce sera, enfin, je ne doute pas que ce sera fait en temps et en heure, quoi.
Oui, c'est ça. Moi, il n'y a aucun moment où, tu vois, je me suis dit, ah mince, là, je pense qu'on ne sera pas dans le timing. Il n'y a aucun moment où je me suis dit ça. Et puis, ouais, je pense qu'on est toutes les deux très travailleuses et très autonomes aussi.
Oui.
C'est vrai que moi, j'avais l'habitude de travailler plutôt toute seule. Mais je ne sais pas, quand tu m'as contactée, ça ne m'a pas inquiétée, tu vois, le fait qu'on soit deux, parce que. Ben, je pense que je sais que aussi, enfin, c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu es travailleuse. Et du coup, enfin, ça s'est vraiment construit, ouais, petit à petit. Et on s'est fait les retours ensemble. Et ouais, j'ai pas eu cette sensation de oh là là, là, c'est moi qui avance pas, ou alors là, c'est Laurie qui avance pas. Enfin, j'ai trouvé que ça se faisait vraiment au fur et à mesure et c'était hyper agréable.
Ouais, c'était fluide, je suis d'accord.
Ouais, complètement. Ensuite, il y a eu aussi pas mal de questions par rapport au sang infort-auto, comme j'ai mis la FAQ sur mon compte Instagram. Donc, il y avait une question, c'était est-ce que le livre reprend toutes les étapes de l'installation que l'on retrouve dans les sangs infort-auto? Alors là, le livre Orthophoniste, le guide pour bien démarrer, c'est pour démarrer quel que soit notre type d'exercice, alors que les sangs infort-auto, c'est que pour le libéral. Donc, moi, je ne parle que du libéral dans les sangs infort-auto, je ne parle pas du tout du salariat parce que je le connais beaucoup moins. Là, dans le...
Je pourrais préciser juste, c'est pour
Oui.
démarrer. Je pense que c'est utile aussi quand on veut juste changer d'exercice, qu'on est ortho depuis longtemps, je ne sais pas, en salariat et qu'on veut s'installer en libéral, ou à l'inverse, qu'on se pose la question de changer de mode d'exercice, ou
Complètement.
simplement vouloir entendre, enfin, lire des choses sur l'orthophonie. C'est
Complètement.
à destination en effet des néo-diplômés et des personnes qui veulent s'installer en premier lieu, mais ça peut être étendu à toutes les, tout le, tous les orthophonistes qui sont intéressés par la question.
Oui, complètement. Et là, dans Orthophonie, ce guide pour bien démarrer, comme on disait, on est sur un livre qui a un ton léger et qui peut se lire d'une traite. Alors que les soins infort-auto, c'est quelque chose de très technique, je ne conseille pas de le lire d'une traite. C'est pour aller piocher des infos dedans. On demandait aussi quelle est la différence avec les soins infort-auto, donc ça se recoupe un peu. Là, donc, comme on disait, le livre Orthophonie, ce guide pour bien démarrer, c'est vraiment un livre ouais, à parcourir et à lire aussi d'une traite et qui est agréable. On rigole, on sourit pendant ce temps. Les sangs infort-auto, donc, ouais, c'est très technique et c'est sur uniquement le libéral et pas que sur l'installation, pas que sur les débuts, c'est vraiment sur tout l'exercice. Enfin, c'est quelque chose qui accompagne pour toute la vie, quoi. Et la dernière question, c'était est-ce que les sangs infort-auto seront quand même mis à jour? Oui, je travaille sur la mise à jour, mais laissez-moi juste une semaine de vacances, s'il vous plaît. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les questions qui avaient été posées. Est-ce que toi, il y avait des choses que tu voulais rajouter avant le dernier petit quiz?
Est-ce qu'il y avait des choses que je voulais rajouter? Non, pas particulièrement, si ce n'est que... je ne sais pas si c'est un livre que j'aurais acheté parce que, comme vous l'avez compris, pour moi, le travail, c'est le travail. Et je ne sais pas si je l'aurais acheté de mon propre chef après l'installation pour préparer mon installation. Mais je pense que c'est un livre que j'aurais adoré parcourir pendant mes études, que j'aurais adoré parcourir à la BU.
Ouais.
Notamment quand j'avais un petit quart d'heure par-ci par-là, ou quand, pour, je trouve, se remotiver et se dire pourquoi je le fais, c'est Je trouve que quand on est noyé par les arts du langage, l'anatomie du larynx, la surdité, etc., les stages, ça permet de revenir dans un peu plus de concret. Et je pense que ce livre aussi, ça peut permettre de remotiver. Donc, même pour les étudiants qui ont en vue le diplôme, mais que dans 2-3 ans, je pense que ça peut être un livre agréable à avoir avec soi pour se rappeler et pour se projeter dans comment nous, on envisage les choses. Et je pense que ça peut aider aussi pour les stages, de se dire... Alors, on ne parle pas de la posture du stagiaire, mais d'appréhender la fin de vie du patient, par exemple, si ça se présente en stage, avoir un peu des infos sur la neurologie, sur la surdité, le bégaiement, savoir comment on peut se positionner. Ça peut être intéressant sur le partenariat patient. Voilà, on parle de plein de choses et plein de choses qui tournent aussi autour de l'orthophonie.
Ouais, et sur la posture du thérapeute aussi, mine de rien, parce que surtout quand on est dans les dernières années de stage, on est amené à avoir beaucoup plus d'autonomie. Et du coup, il faut travailler sa posture de thérapeute en plus de sa posture de stagiaire, parce qu'après, bientôt, on sera seul avec les patients, donc c'est à faire. Moi, je sais que j'étais tellement aussi obsessionnelle pendant les études. C'est sûr que je l'aurais acheté pendant les études, peut-être même dès la première année.
Ouais.
Mais vu comme j'avais travaillé pour les concours, enfin c'est sûr que je l'aurais déjà acheté. Mais c'est clair que là même, comme tu disais, j'avais pas pensé de le préciser aussi, mais quand on est encore étudiant, ouais, c'est chouette de l'avoir pour garder en ligne de mire. En fait, c'est quoi mon objectif à terme? Là, c'est pas juste de valider les partiels, en fait, c'est d'accéder à ce métier qui est hyper chouette. Et qui n'est quand même aussi qu'un métier, parce qu'on reparle beaucoup de l'équilibre vie pro-vie perso, qui peut être difficile à avoir quand on est dans un métier de soins comme ça, mais c'est pour nous quelque chose d'hyper important. Donc, on donne nos témoignages et plein de petits conseils aussi là-dessus.
Ouais, éviter la surcharge, tout à fait.
Ah, c'est le réveil de Soline.
La surcharge. La surcharge, on n'aime pas ça.
Non à la surcharge. On va arriver au dernier petit quiz. Donc ça, tu n'avais pas les questions, Laurie.
Non.
Je t'ai préparé un quiz en décalé. Donc, le principe, c'est le même principe que le jeu jet lag, si vous connaissez. Je te pose une première question. Tu ne réponds pas tout de suite. Je te pose une deuxième question. Et à la deuxième question, tu me réponds la réponse de la première question.
Très bien. Allez, avec les nuits de sommeil en moins, ça va être chouette.
C'est ça. Ouais, nickel. En fin d'interview, en plus, parfait. Est-ce que tu es prête?
Je suis prête.
Ton nom, c'est bien Laurie, c'est ça? Tu regrettes d'avoir écrit un livre avec moi?
C'est bien ça.
Si tu devais faire un deuxième livre, tu le ferais?
Non, non, c'était chouette. C'était très chouette.
Tu prenais une cuite tous les soirs pendant ta grossesse?
Oui, définitivement.
Tu aimes ton pseudo, ma palette d'ortho?
Non, c'est illégal.
Est-ce que tu es fière du livre Orthophoniste, le guide pour bien démarrer?
Pas de regret à refaire. Je choisirai le même.
Et la dernière question, est-ce que tu penses qu'il est utile pour toutes les orthophonistes qui vont travailler en France et ailleurs?
Alors, je suis plus sûre de la question. Donc, je vais dire absolument, à 100%.
Ok, voilà, c'était le quiz en décalé. Je me suis dit que ouais, tu apprécierais là, à la fin de l'entretien, après tes courtes nuits de sommeil, deux enfants.
C'était parfait, c'était ce qui manquait à ma journée pour parfaire ma forme optimale.
On va arriver à la dernière question du podcast. Donc le podcast est un peu particulier, mais la dernière question ne change pas. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et auditrices?
Je vais faire en sorte que ce soit pas le même que la dernière fois, mais je me souviens pas du tout de ce que j'ai dit la dernière fois. Je dirais que je trouve qu'on est un bon exemple de... il faut saisir les opportunités quand elles se présentent et parfois même un peu les provoquer. C'est-à-dire qu'on peut se dire bah, « là, c'est pas le moment » ou « là, je suis dans une période un peu précaire » ou « alors je suis surbookée, je vais pas faire ça maintenant ». Et finalement, louper le coche d'une opportunité. Et je trouve ça dommage parce que on viendra pas vous chercher. Alors, sauf exception, si Amaury Durand vient vous chercher sur Instagram pour vous proposer d'écrire un livre, mais ça reste assez rare quand même.
Et vous saurez que c'est un vrai.
C'est un vrai.
C'est une vraie personne.
C'est un vrai. Mais globalement, je trouve qu'on vient, c'est assez rare qu'on vienne vous chercher pour un projet. Et parfois, on a l'idée d'un projet, mais on n'ose pas se lancer, soit parce qu'on ne se sent pas légitime, on se dit qu'il y en a d'autres qui seraient mieux placés que nous pour le faire, ou parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps à ce moment-là. Et mon conseil, ce serait de se lancer quoi qu'il arrive. De toute façon, je trouve que ça se prête, par exemple, à la plateforme YouTube. Parfois, on se dit, j'aimerais parler de ce sujet, mais il y en a plein qui en parlent. Oui, mais chacun a son ton et sa manière de l'aborder. Il ne faut pas hésiter à apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit dans un loisir qu'on cultive ou dans sa profession. C'est toujours intéressant d'avoir toute une panoplie d'avis et d'expériences à ce sujet. Donc, sentez-vous légitime d'apporter votre témoignage. Si vous avez d'éditer des jeux, éditez des jeux, même si vous pensez que vous n'êtes pas le mieux placé pour le faire. Si vous avez envie d'écrire, écrivez, de peindre. Vraiment, faites-vous plaisir et n'ayez pas peur du regard des autres ou du flop, parce que parfois ça vient en plus tard, oui. La réussite d'un projet, et puis parfois c'est juste un premier pas qui nous amène vers d'autres, qui nous ouvre des portes, donc n'hésitez pas, ce serait mon message.
Eh ben super, merci beaucoup pour ce message Laurie, et merci beaucoup pour cette interview donc, qui paraîtra juste avant la sortie du livre Orthophonis, le guide pour bien démarrer, sorti le 17 mai.
Merci Sarah.
Avec plaisir. À bientôt, Laurie.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.